rencontre littéraire, Václav Richter.
Ce mardi, Prague a rendu le dernier hommage à Jan Vladislav, poète et traducteur disparu à l'âge de 86 ans et qui nous laisse une œuvre importante, variée et profonde. Parmi les personnalités qui ont assisté aux obsèques de Jan Vladislav, il y avait également Roger Herrera, conseiller d'État honoraire et ancien membre du Comité des droits de l'homme de l'ONU. L'occasion de s'entretenir avec Roger Herrera sur son ami Jan Vladislav, sur ce poète qui n'a pas courbé les chines devant le régime totalitaire et qui, après un exil de 22 ans en France, était revenu dans son pays pour y passer le reste de sa vie. Comment et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de Jan Vladislav?
J'ai rencontré Jan Vladislav grâce à Roselyne Chenu à Prague en 1973. Je faisais partie avec elle et d'autres amis d'un petit groupe qui s'efforçait d'aider les dissidents tchèques, d'abord en leur rendant visite, puis en leur apportant des livres et d'autres moyens de nature à les aider à vivre, à survivre et à rendre concrète, dans la mesure du possible, notre solidarité avec eux et notre volonté de les aider.
Quel a été le caractère de vos rapports? Est-ce que c'était une amitié, une collaboration ou autre chose?
Alors l'amitié a été immédiate, je peux le dire, de part et d'autre. De 1973 à 1977, ma femme et moi avons passé chaque hiver, chaque Noël à Prague. Et nous avons eu le privilège, en janvier 1977, quelques jours avant la publication de la charte 77, d'être présent à Bielorska, dans l'appartement de Jan Vladislav, où étaient présents Václav Havel, Ludwig Vasulik, Pavel Landowski, le professeur Patochka, à la veille de cet événement considérable. Il s'en est suivi une correspondance suivie des deux côtés, des envois de livres, de journaux de notre part. Et lorsque Jan a pris la décision tragique de quitter son pays, nous avons été plusieurs à l'accueillir à Paris afin de faciliter autant qu'il était possible sa vie dans ce pays qui était nouveau pour lui, même bien entendu s'il le connaissait depuis longtemps.
Avez-vous joué un rôle dans sa décision de quitter son pays ?
Non, nous sommes toujours interdits de donner un conseil, soit de rester, soit de partir. Tout exil est une tragédie pour ceux qui partent et pour ceux qui restent. Jan avait connu dans sa famille un premier exil, celui de ses enfants, ses deux filles qui sont parties pour le Canada. Lorsqu'à la fin, il nous a fait savoir qu'il préférait quitter le pays, nous avons pleinement respecté sa décision, comme nous l'aurions respecté s'il avait décidé de ne pas le quitter.
Comment il supportait l'exil ?
Lui seul pourrait répondre à cette question. Tout exil est une tragédie, même si la France pour lui était un pays déjà familier. Il en parlait la langue. Nous avons fait le maximum pour l'aider juridiquement, matériellement, avec beaucoup d'autres. Cela dit, je crois que cela a été difficile pour lui parce que ces années l'ont éloigné de son pays. Il y a passé 22 ans, le temps d'une génération, et je peux dire, parce qu'il y a des témoignages en ce sens, que lorsqu'il est rentré à Prague en 2003, le pays qu'il a retrouvé n'était plus celui qu'il avait quitté. 22 ans avaient passé, et il a eu besoin d'un certain temps pour se réacclimater dans ce pays qui était toujours le sien, mais qui avait beaucoup changé depuis une génération, et nous avons compris qu'il valait mieux pour lui qu'il rentre dans son pays où il était plus connu et mieux reconnu qu'en France, comme l'ont attesté les distinctions et les récompenses qu'il a reçues ici, la façon dont il a été honoré, le public d'étudiants, d'écrivains qui l'entouraient. Même si son choix a été dicté par l'état de santé de sa femme, initialement, je pense que pour lui, ce retour d'exil a été une bonne chose.
Entre-temps, vous avez collaboré en publiant les essais politiques de Václav Havel.
Oui, dès le début de 1989, bien avant l'écroulement du mur de Berlin, j'avais l'idée de proposer à un éditeur français de publier une collection, un recueil d'essais politiques de celui qui était connu, mais pas très connu, Václav Havel. C'est un éditeur français, la maison Kalman Levy, qui a accepté ce projet. J'ai immédiatement dit à Yann que je ne pourrais le faire qu'en collaboration avec lui, pour des raisons évidentes, non seulement d'amitié, mais de traduction et de compréhension du sens. Et c'était pour moi un honneur et un plaisir d'être le co-auteur de ce recueil d'essais qui a été publié à Paris, je crois, quelques semaines après l'élection de celui qui était devenu entre-temps le président Havel. Et le livre a eu un certain succès puisqu'il a été publié en livre de poche et qu'il a permis, je crois, aux Français à l'époque de mieux connaître les écrits et la pensée de celui qui, de dissident, était devenu le premier président de la Tchécoslovaquie redevenue libre.
Revenons encore au séjour de Jan Vladislav en France. Il y a dirigé, n'est-ce pas, un séminaire sur la culture non officielle. Comment ce séminaire était perçu et reçu par les étudiants?
Je ne sais pas, n'ayant pas assisté à ce séminaire, ce que je puis dire, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'enseignements de cette nature à Paris, que l'on parlait plus à l'époque des dissidents soviétiques, dissidents russes, ou polonais, que des dissidents tchèques. Mais Yann a eu le souci justement de ne pas parler uniquement de son pays, mais d'essayer de faire comprendre à son public ce que c'était que cette pensée libre, cette pensée dissidente, et à quel prix ces écrivains, ces auteurs, ces compositeurs, ces artistes maintenaient une liberté de culture, une liberté d'expression dans un régime qui voulait étouffer non seulement l'avenir et la culture, mais qui voulait aussi priver de la mémoire du passé. La leçon qu'il nous donne et qui restera bien après sa mort, c'est la démonstration que l'on peut dire non, que l'on peut refuser de participer aux mensonges, d'être un agent de la servitude, que ceci a un prix et que cet exemple vaut non seulement pour le passé, mais pour le présent et pour l'avenir.
Est-ce que vos rapports avec Jan Vladislav ont continué même vers la fin de sa vie?
Alors, il est rentré en 2003, nous l'avons accompagné avec Roselyne Chenu et mon épouse à la gare de l'Est. Nous sommes revenus à Prague en 2004, quand l'Union des juristes m'a remis la médaille Randa. Nous avons continué à correspondre, nous l'avions pas revu depuis 2004. Notre correspondance est un peu distendue, c'est vrai, parce que nous le pensions à la fois proche et un peu... comment dirais-je, plus lointain. Nous savions qu'il était installé à nouveau à Prague, qu'il était publié, qu'il était connu et reconnu. Peut-être aurions-nous dû venir le revoir plus souvent. L'occasion a manqué, mais maintenant il est trop tard pour le regretter.
Qu'est-ce que la rencontre de Jan Vladislav a apporté à vous personnellement?
Ce que m'ont apporté ces visites, ses voyages et ses lectures, celle de la charte 77 et celle de ses nombreux manifestes, c'est combien les façons de s'exprimer variaient. De toute évidence, le langage des dissidents tchèques n'était pas celui des dissidents russes ou polonais ou hongrois. Le passé du pays n'est pas le même, la nature de l'oppression n'était pas les mêmes. La dissidence tchèque m'a toujours frappé par son caractère très rationnel, très rationaliste, très résolu. Les Tchèques ont donné une grande leçon, je crois, à l'Europe à ce moment-là. J'ai eu l'occasion, siégeant au comité des droits de l'homme de l'ONU dans les années 80, de le rappeler face à un représentant du pouvoir communiste. J'étais très ému de revoir Václav Havel aux obsèques de Jan Vladislav. Je pense que quand il a été élu président, c'était un symbole pour le pays, bien sûr, mais pour toute l'Europe, de voir que cet acteur, ce penseur de la pensée dissidente, accédait aux plus hautes charges de son pays. Tant que Havel était président, la Tchécoslovaquie, puis la République tchèque, ont été connus et reconnus en Europe. On pouvait mettre un visage sur ce pays.
C'était Roger Herrera qui nous a parlé du poète et traducteur Jan Vladislav, son ami. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochová, réalisation technique, et à Ira Rozumná, prise de son.